Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Si l'on doutait encore d'une réelle proximité entre Paris et Istanbul au 19e et 20e siècle, la lecture du dernier livre de Timur Muhyiddin devrait nous en convaincre totalement. Istanbul rive gauche énonce parfaitement le propos. De 1839 à la fin des années 1990, les échanges ont été constants. La langue française recherchée par les élites, hommes politiques, entrepreneurs et surtout écrivains et artistes, la culture française, singulièrement parisienne, avait son miroir quasi parfait à Beyoğlu, ville dans la ville sur la rive européenne d'Istanbul. La narration de l'ouvrage de notre invité est extrêmement riche et très documentée sur les traces de Pierre Loti, Louis Aragon, Attila İlhan ou Demir Özlü. Istanbul Rive Gauche, une émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Bonjour Timur Muhyiddin.
Bonjour Éric Bataillon.
Professeur à l'INALCO, vous enseignez la littérature et la langue turque, directeur de collection chez Actes Sud, mais c'est aux éditions du CNRS que vous publiez votre dernier livre, Istanbul, Rive Gauche. Votre récit est une plongée d'un siècle à la fois dans le vivier culturel turc et dans un quartier d'Istanbul, celui de Beyoğlu. Décrivez-nous ce quartier, où se trouve-t-il précisément à Istanbul ?
Alors, plus qu'un quartier, c'est une semi-ville. Je l'appellerais semi-ville parce que c'est assez étendu. Ça comporte plusieurs quartiers qui sont rassemblés sous le nom, depuis le 15e siècle, on dit Beyoğlu, on disait Pera à la grecque. Les Français, les voyageurs étrangers ont beaucoup utilisé le mot de Pera. Ça leur paraissait sans doute plus simple, plus naturel d'utiliser ce terme, qui veut dire l'autre côté, par rapport au quartier des mosquées, par rapport à ce qu'on appelle maintenant Sultanahmet. C'est une semi-ville occidentalisée, en tout cas d'apparence, qui s'est construite beaucoup au 19e siècle. Alors moi, je commence effectivement ce travail en 1870, qui est la date du grand incendie de Pera, où les maisons, la plupart des anciennes maisons en bois sont réduites en cendres et ont construit en pierre, ce qui va donner la physionomie actuelle du quartier, c'est-à-dire un quartier que beaucoup d'orientaux considèrent être un petit Paris, mais qui ressemble pas du tout à Paris quand on vient de Paris.
Néanmoins, au début de l'ouvrage, vous évoquez un axe Galata-Pera-Paris. De quoi s'agit-il précisément ?
Alors, il s'agit d'un axe plutôt culturel et intellectuel, mais bon, finalement aussi peut-être architectural, en tout cas dans l'imagination des Turcs, qui étaient heureux d'y voir un petit Paris. Bon, les petits Paris, j'ai l'occasion d'en parler au début du livre, c'est un phénomène qui va se répandre sur les bords de la Méditerranée dans la même période, 1870-1914. Donc, effectivement, on peut considérer que le Caire, Alexandrie, Beyrouth, d'une certaine manière, un certain nombre de villes d'Orient, du sud de la Méditerranée et Istanbul sont des petits Paris. Alors, ça, c'est pour l'aspect promenade visuelle, je dirais, mais en arrière-plan, il y a la langue française et le lien indéfectible avec la culture française.
Alors justement, de quand date l'ouverture de la Turquie à l'Occident et à la modernité, et évidemment le lien avec la France et la langue française?
Alors la date officielle, c'est 1839, c'est-à-dire le début des réformes qu'on appelle les réformes, les Tanzimat.
Les Tanzimat.
En réalité, ça démarre assez lentement et ça prendra plusieurs décennies. Et personnellement, je considère que les échanges, l'intensité des rapports avec la France date plutôt justement de la fin du 19e, des années 70-80. Mais la langue diplomatique et de travail en fait des Ottomans est le français. Dès 1839, c'est-à-dire on peut pas faire carrière dans l'Empire ottoman si on connaît pas le français. On peut pas être un pacha, on peut pas être un responsable administratif, on peut pas être un militaire de haut rang si on ne connaît pas le français. Du coup, toute la classe cultivée, active dans les modernisations sera francophone.
Est-ce que le fait qu'il y ait eu beaucoup d'étudiants turcs qui sont venus à Paris à partir de 1939 et après, bien entendu, est-ce que cela a joué un rôle dans ce lien assez particulier entre la Turquie de l'époque et la France ?
Bien sûr, parce que moi je m'intéresse aux écrivains, aux traducteurs, à tous ces gens de la République des Lettres, mais il y a beaucoup plus d'étudiants d'autres domaines, par exemple de juridique, par exemple la médecine, par exemple les ponts et chaussées, etc., enfin les écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup plus que de littéraires. Et les liens sont tissés à tous les niveaux de la société, dans tous les corps de métier, au point qu'à Istanbul même, par exemple, la médecine était très largement, la grande médecine était francophone jusque dans les années 40. C'est-à-dire qu'un médecin lisait les publications françaises, publiait ses articles en français, français, participer au congrès plutôt en France ou en Suisse, que dans le domaine anglo-saxon était pratiquement inexistant.
Mais qu'est-ce qui attire les citoyens turcs à Paris précisément? Alors, vous dites qu'il y a par exemple des peintres et qui vont créer une sorte d'impressionnisme à la turque. Il y a évidemment beaucoup d'écrivains. Qu'est-ce qui les attire?
Alors, ce qui les attire, c'est la ville lumière. Bon, de toute façon, Paris est le phare du 19e siècle. Beaucoup plus que toute autre ville. Elle attire beaucoup plus les artistes encore que Londres. New York n'attire pas encore. Donc, c'est Paris qui est la capitale du monde civilisé pour les gens qui sont dans le domaine des arts. Les académies privées de peinture, on n'est pas obligé. On peut pas s'inscrire facilement à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, on va dans les académies Julian, par exemple, ou dans les ateliers privés pour se former en peinture moderne, qui est un enjeu important. Et c'est là qu'on voit la structuration aussi de la société ottomane, parce que dans ces peintres, il n'y a pas que des Turcs. Il y a des Turcs et des citoyens ottomans d'origine grecque, arménienne, etc. Citoyens ottomans avec un passeport, mais non turcs en réalité. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que cette fascination concerne tout le monde. Peut-être les Turcs sont les derniers venus dans ce phénomène, parce que justement ce qu'on appelle les minoritaires, les Grecs, les Arméniens, les Levantins, sont de bien meilleurs francophones, donc ils ont une facilité.
Dans ce quartier de Beyoğlu dont nous parlons, vous parlez dans ce livre, entre 1870 et 1923, en France c'est la Belle Époque, est-ce que cela transpire dans ce quartier à ce moment-là?
On peut vraiment parler d'une Belle Époque jusqu'en 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et particulièrement entre 1908, donc la Révolution jeune turque, et 1914, donc petit vent de liberté qui souffle sur l'ensemble de l'Empire et à Istanbul particulièrement. La période 1914-1918, période difficile, la guerre est quand même difficile pour les Turcs, ils sont pas tout à fait prêts, ils participent à la guerre parce qu'il y a l'alliance avec les Austro-Hongrois et les Allemands, mais les moyens économiques font que la ville est quand même très soumise aux privations. Il y a énormément de réfugiés des Balkans, il y a des bidonvilles en fait entiers, on voit dans les documents photographiques, et ça c'est pas la Belle Époque. Par contre, ça recommence entre 18 et 23, l'occupation de la ville par les troupes alliées, contrairement aux apparences, est une Belle Époque, c'est-à-dire c'est les années folles. Les années folles, c'est l'occupation d'Istanbul par les étrangers, les chrétiens, français, anglais, italiens, parce que ça permet toutes sortes de libertés que la société traditionnelle ne permettait pas.
Est-ce que la bohème a inspiré le quartier, a inspiré les chercheurs, a inspiré les écrivains, tous ces artistes qui sont dans ce quartier de Beyoğlu à cette époque?
On peut, je pense, dire que la bohème turque est née à Beyoğlu. Elle est née à Pera, parce que c'était le seul quartier qui le permettait. Il faut un peu de liberté, il faut un peu de marge, on va dire, même des marges et de la marge, les deux à la fois, pour qu'une bohème existe. Et ça n'était possible qu'à Beyoğlu, dans la période, justement, 1870-1940. Par la suite, cette bohème se déplace dans d'autres quartiers aussi. Alors, liberté, quelle liberté? D'une part, la liberté de s'exprimer, donc les cafés, parce que malgré la surveillance du sultan au début du XXe siècle, par la suite, il y a une sorte de très grande liberté qui règne, il y a les jeunes turcs qui reviennent, il y a une liberté de la presse, quelque chose d'assez étonnant.
Le sultan Abdülhamid II qui avait organisé les répressions après les Tanzimat.
Il monte sur le trône en 76 et donc il va être effectivement, il est tristement célèbre pour, on l'appelait le sultan rouge, parce que assez régulièrement, alors évidemment il y a le cas des Arméniens, les premières révoltes dans l'est de la Turquie, en Anatolie, d'Arméniens sont très violemment réprimés, puis il y a 1909, il y a toute une histoire arméno-turque évidemment qui est en arrière-plan. Mais en tout cas, il y a une sorte de petite province protégée en dehors de toute territorialité turque qui est Beyoğlu. Alors j'ai parlé de liberté de pensée, d'expression. Il y a une liberté aussi de boire. Hein. C'est un quartier de café, de taverne depuis le 15e siècle. Il y a une liberté sexuelle qui est très différente des autres quartiers. En plus, c'est le quartier des bordels. Donc, vous mettez tout ça ensemble, vous obtenez une sorte de combinaison possible pour la bohème.
C'est ce que vous appelez une bohème créative associée à une délicieuse immortalité. Alors, expliquerait d'ailleurs la diabolisation de Pera.
Oui, pour les minoritaires, pour les chrétiens, c'est un petit peu différent. Ils y sont, je dirais, relativement plus à l'aise dans un premier temps, parce qu'il y a la langue française, parce que ça correspond à ce qu'ils connaissent déjà de l'Europe, etc. Pour les Turcs, qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire des autres parties de la ville, c'est l'exotisme total, c'est-à-dire c'est l'exotisme à domicile. Un écrivain des années 40 disait, pour le prix d'un ticket de tramway, je voyage en Europe. Il traversait Pera, il était dans son Paris imaginaire. Alors tout ça, c'est une histoire de fantasmagorie, bien sûr, mais en même temps, il y a des signes, disons, réels et objectifs de cet exotisme occidental implanté au cœur de la ville turque.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI et nous sommes en compagnie de Timur Muhiddin pour son livre « Istanbul, rive gauche » publié aux éditions du CNRS. Timur Muhiddin, la ville occidentalisée du début du XXe siècle laisse place à la ville honteuse dans l'entre-deux-guerres. Que s'est-il passé exactement ?
Alors la première chose qu'on pourrait peut-être dire d'un point de vue historique, c'est que Istanbul est une ville punie après 1923. Comme elle n'a pas participé à la guerre d'indépendance, donc la guerre des Kémalistes, elle a collaboré. La plupart des habitants ont collaboré, ils ont fait du marché noir, ils ont fricoté avec les occupants. Donc les Kémalistes décident de punir la ville. Alors il y a plusieurs façons. Dans un premier temps, les Stambouliotes ont pensé qu'il y aurait des répressions. Ça s'est pas passé comme ça, c'est passé de manière plus diffuse, plus lente, mais ça a été systématique. Donc elle est déclassée puisqu'elle n'est plus capitale, les investisseurs se déplacent, les commerçants d'origine étrangère, enfin étrangère ou minoritaire, parce qu'ils n'étaient pas étrangers en fait, mais il y a aussi des étrangers, des occidentaux, sont petit à petit repoussés vers l'extérieur. Les Grecs, on les pousse vers la porte de sortie, les Arméniens ont subi le carnage du génocide, donc il y a, en fait, les Arméniens d'Istanbul n'ont pas été touchés hein, par la période du génocide, mais ils ont peur, ils se terrent en fait, et ils ralentissent leurs activités. Les Juifs, commencent à penser à aller en Palestine, en fait, et pas encore Israël. Tout ça se délite, et c'est vrai que le sel du quartier se perd à ce moment-là. Mais c'est essentiellement, un choix politique, même s'il n'est pas systématique, il a lieu. Et on re-turquifie. Alors ça, c'est difficile peut-être à expliquer pour quand on connaît pas l'histoire de la Turquie, mais on va re-turquifier le quartier, au point même que les commerçants, dans les années 30, vont être obligés de prendre un partenaire turc. Quand vous avez un nom grec, vous prenez un turc qui ne fait rien, qui prend une sorte d'impôt. Hein. Fin du mois, il vient chercher la moitié des recettes. Donc tout ça fait que ça se dégrade vraiment. Et les vieux habitants de Beyoğlu disent oui, le quartier entre dans sa décadence vraiment au milieu des années 30.
C'est aussi à cette époque que certains auteurs sont persécutés par le pouvoir. C'est le cas de Nazım Hikmet, dont vous venez de traduire en français le roman « Lettre à Taranta Babu » chez l'éditrice Emmanuelle Colas. Seuls quelques extraits avaient été publiés en 1936 dans la revue littéraire dirigée à l'époque par Aragon. C'est donc un inédit. Qui était Nazım Hikmet ?
Alors, Nazım Hikmet n'a pas une très grande place dans ce livre parce que finalement, c'était pas un vrai habitant de Beyoğlu, c'était un auteur de passage et je traite de beaucoup d'autres noms, mais c'est probablement un des grands, c'est le grand poète, c'est un des grands auteurs et le grand poète de la période. Son activité, alors il était assez bohème, il était réputé pour, il y a beaucoup de caricatures qu'il représente, bohème, il revient de Moscou, hein, il a été formé en jeune URSS, alors il a une casquette de travailleur, il a toujours la chemise ouverte, il est assez grand, il est blond, il a un physique très particulier, donc en fait il a une allure de bolchevique, mais pour les Turcs c'est un bohème. Donc il y a différentes façons de vivre la bohème. Et il est plutôt dans le quartier de la presse à Babi Ali, qui est de l'autre côté de la Corne d'Or. Donc Beyoğlu le concerne partiellement. Et justement, dans le recueil « Lettre à Taranta Babu », il y a un clin d'œil. Dans la lettre 6 de Taranta Babu, il y a une mise en scène d'un café supposé se trouver à Rome, un café italien. Mais en fait, c'est une transposition d'un café d'intellectuel à Beyoğlu, hein, qui s'appelait Degustation, la dégustation, et qui est mis en scène comme un lieu vraiment de règlement de comptes littéraires, de petits calculs. Il se défoule un petit peu sur la République des Lettres de cette époque-là. Donc c'est le seul moment où Beyoğlu est vraiment présent. Mais l'ombre de Nazım Hikmet est là sur toute la période.
Et pourquoi faut-il le lire aujourd'hui ? Pourquoi c'est important ?
D'une part, c'est un poète extraordinaire. N'importe qui, même ceux qui n'aiment pas la poésie, ne peuvent que se rendre compte que c'est... Hein, par exemple, il s'agit, vous avez dit, c'est un roman. Oui, c'est un roman en vers, une sorte d'épopée moderne sur l'invasion de l'Abyssinie de l'Éthiopie en 1935. Donc c'est un sujet un petit peu oublié, mais qui est intéressant. C'est un sujet anti-impérialiste, anti-colonialiste, à l'époque où ça n'était pas du tout la mode. C'est donc le premier auteur turc qui va prendre ça en main et dénoncer l'ingérence, on va dire, des grandes puissances.
1954, vous évoquez Istanbul, année zéro. Qu'est-ce qui change dans la vision des jeunes écrivains de l'époque ? Est-ce que le lien avec Paris et le français se dissout petit à petit ?
Pas encore, mais les liens, ce qui peut être noté, c'est qu'au fur et à mesure que le siècle avance, et donc le milieu des années 50, une sorte de tournant, les relations se veulent de plus en plus à égalité. C'est-à-dire que les Turcs ne veulent plus être uniquement les consommateurs, on va dire, de la culture française. Ils veulent aussi apporter la leur. rencontrer les auteurs turcs et pas uniquement voir passer Paul Morand ou Pierre Loti de loin. Voilà, c'est vrai que les trois auteurs que j'ai choisis, Demir Özlü, Ferit Edgü et Atilla İlhan, sont des jeunes auteurs, étudiants, puis auteurs qui vont s'impliquer dans la vie française. Atilla İlhan est assez intéressant parce que lui, il est déjà communiste convaincu et ce qui l'intéresse, c'est de fréquenter des cellules communistes et de voir de près ce que c'est le communisme à la française, puisque bon, à la fin des années 40, des années 50, un grand courant politique, ça impressionne beaucoup les étrangers et les Turcs, disons, engagés comme lui. Donc, on est tout à fait dans autre chose que venir à Paris, s'installer à l'hôtel et aller voir la Tour Eiffel. On est dans entrer de plein pied dans la culture, discuter, faire des débats politiques, intellectuels. Bon, il y a aussi la question de l'existentialisme hein, qui a besoin d'être touché du doigt par Demir Özlü, Ferit Edgü. Ils veulent en faire partie, en réalité, et l'intégrer à la littérature turque.
Et est-ce que l'attrait du tiers-mondialisme, c'est cela qui va petit à petit tuer l'attrait pour le simple francisme, si on peut utiliser ce terme?
On peut dire ça, bah absolument. Je crois que c'est un élément très important qui pourrait être développé, bon, qui est présent chez Atilla İlhan, parce que lui est très engagé politiquement, mais surtout parce qu'il rencontre des exilés politiques de toutes les zones possibles. Enfin, il y a Yougoslavie, Chine, Espagne, etc. Et il comprend ce qu'est le combat politique et le tiers-mondisme. Il s'intéresse aussi à écouter des conférences sur le domaine de l'anthropologie, de politique. Il lit beaucoup de choses. On arrive assez vite dans la question de la guerre d'Algérie. Et là, ça a été beaucoup raconté. On pourrait pas se faire un volume sur la guerre d'Algérie perçue par les Turcs. Ils comprennent que la France de l'esprit a bien changé. Et que, finalement, les Algériens, c'est un peu eux. Voilà, donc ça c'est un tournant extraordinaire qui va effectivement beaucoup faire chuter l'admiration, l'amour pour la France.
Une identification avec les Algériens qui perdure encore d'ailleurs aujourd'hui, notamment sur le plan diplomatique, on le voit assez régulièrement, les liens qu'il y a entre l'Algérie et la Turquie. L'après mai 68, avec cette formidable arrivée de la liberté, enfin ce front de liberté qui arrive en France, va finalement peut-être aussi rejaillir sur l'intelligentsia turque de l'époque et va peut-être permettre l'émergence de nouvelles voix, notamment les voix, qu'elles soient kurdes ou musulmanes d'ailleurs, dans le pays.
Alors effectivement, l'impact de mai 68 est énorme. Il se trouve que les manifestations et révoltes d'étudiants ont lieu en 69 en Turquie et puis vont durer tout au long des 70 pour finir par être réprimé par le coup d'État de 80. En fait, ça va crescendo en Turquie, hein, l'agitation politique des jeunes et de la gauche et de la droite. Et ça permet, effectivement, dans cette sorte de zone un peu bizarre, zone tampon des 70, il y a une émergence de nouvelles voix, qui sont les voix des musulmans, les voix des Kurdes. C'est pas des voix très littéraires à l'époque, ça viendra beaucoup plus tard, mais une pluralité qui couvait, en réalité, et qui va aussi s'exprimer où, dans Beyoğlu et dans les manifestations de la place Taksim. C'est pas tellement possible ailleurs. Parce que c'est à Beyoğlu qu'il y a les maisons d'édition, les revues, et puis la place où on peut manifester, qui n'existe plus d'ailleurs, on ne peut plus manifester à Taksim.
Justement, aujourd'hui, Beyoğlu, c'est comment? Comment ça a évolué?
Ça a assez mal évolué. Beyoğlu est un quartier qui a été récupéré entièrement par le commerce et un certain tourisme. La grande effervescence culturelle et bohème, ce sont les années 90. Mais à partir de 2001-2002, ce qui correspond à d'autres dates politiques en Turquie, on voit que tout ça va vraiment se tasser, se réduire, se transformer. Et du coup, le quartier, on va dire, de liberté de Bohème s'est déplacé de l'autre côté à Kadıköy, donc sur la rive asiatique, pour l'instant. Sans compter différents petits foyers. Non, Beyoğlu est en très mauvais état.
D'où votre titre du dernier chapitre, Adieu Perrin.
Oui, le vieux Beyoğlu n'est plus, le Beyoğlu contemporain a peut-être une chance. Parce qu'il y a énormément d'énergie dans ce quartier, il y a quand même toutes les maisons d'édition, les grandes librairies, les cafés. Il reste quelque chose, il reste un terreau possible. Mais bon, la surveillance, le régime politique, etc., fait que là, c'est un lieu de confrontation. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, parce que l'autre côté est un quartier entièrement acquis aux idées du UGP, donc du Parti Socialiste. Voilà, donc il y a ces questions, disons, de politique générale, de représentation de la ville. Je pense aussi que le pouvoir en place n'aimait pas beaucoup Beyoğlu. C'est un peu gênant, ce quartier.
Merci Timur Mudin, professeur de littérature et de langue turque à l'INALCO à Paris.
Merci Eric Bataillon.
Votre dernier livre, Istanbul, rive gauche, est publié aux éditions du CNRS. Orient Hebdo sur RFI, réalisé par Mathias Golshani. On se retrouve samedi prochain à la même heure, fidèle à la Radio Mondiale. Dans un instant, le journal.